Baruch Spinoza, Benedictus. C'est une sorte de lieu commun, à tel point que son nom est devenu le symbole de la liberté de pensée, victime de l'obscurantisme religieux. En conséquence de quoi, il est littéralement vendu par des penseurs confondant philosophie et développement personnel, comme la figure du philosophé à tout prix, quitte à subir le kherem, le bannissement par la communauté juive. On imagine donc Spinoza bien loin des Écritures. Mais c'est mal le connaître. Car non seulement Spinoza n'avait absolument rien écrit avant son bannissement, mais encore l'une de ses œuvres majeures, le traité théologico-politique, fait pour ainsi dire de la philosophie à partir de la Bible. Suivre la pensée de Spinoza n'est pas simple, surtout quand elle entend distinguer la philosophie de la prophétie. C'est pourquoi j'ai le plaisir de recevoir Gilanus, philosophe, directeur des cahiers d'études lévinassiennes, et qui vient de publier aux éditions Verdier un très beau « Sans images ni paroles », Spinoza, face à la révélation. C'est un ouvrage qui se veut pédagogique, mais qui n'hésite pas à aller en profondeur, loin des polémiques contemporaines qui ont travaillé l'interprétation des textes de Spinoza. Gilanus, bonjour.
Bonjour.
Bon, alors, j'en parlais dans le lancement, il y a une sorte de lieu commun sur Spinoza, mais voilà que dans le traité théologico-politique, il y a presque ce besoin chez lui d'aller se frotter à la prophétie, et il ne le fait pas comme un interprète des textes seulement, mais comme un philosophe. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
Alors c'est la question, c'est l'étonnement qui a présidé pour moi au travail sur ce texte de Spinoza, le traité théologico-politique. Et puis voilà, j'ai essayé de me demander deux choses. J'ai essayé de me demander pourquoi a-t-il recours au verset biblique, à quoi cela correspond-il dans son geste de pensée ? Pourquoi s'y référer alors qu'il est parfaitement capable de penser les choses sans ? Et puis deuxièmement, à partir du moment où il s'y réfère, comment est-ce qu'il les lit ? Comment est-ce qu'il sélectionne dans les commentaires ce qui va servir son propos ? Et parfois, pourquoi il laisse de côté certains commentaires aussi, parce que voilà, ça serait plus compliqué pour ce qu'il a à dire.
Il quitte la communauté juive sans quitter la Bible ?
Il ne quitte pas la Bible, alors il appelle la Bible l'écriture. L'écriture, c'est un nom singulier pour dire quelque chose qui est assez pluriel en vérité, parce qu'il entend sous ce nom tant la Torah que les évangiles en vérité. Donc pour lui, il y a une unité de ces textes, disons, alors qui finit par constituer un texte, l'écriture, et donc il se réfère à des grandes figures qui sont Abraham, qui sont Moïse, qui sont aussi Jésus, Salomon, etc.
Alors, au début de votre ouvrage, vous montrez la distinction qu'opère Spinoza entre la connaissance naturelle, qu'on pourrait résumer peut-être à celle qui est le produit de l'entendement, en quelque sorte, et la connaissance prophétique. Mais vous montrez que pour Spinoza, il y a une connexion, en fait, évidente entre les deux.
Voilà, alors ça c'est le travail de lecture que je fais dans le texte lui-même. Je pars de la définition que Spinoza donne de la prophétie, tout premier chapitre du traité théologico-politique, où il dit la prophétie ou la révélation, c'est la connaissance certaine d'une chose révélée par Dieu aux hommes. Et j'essaie d'interroger cette définition. Et effectivement, vient tout de suite à mon esprit la distinction très classique en vérité, qui n'est pas propre à Spinoza, très classique, entre connaissance naturelle, la connaissance par l'entendement, qui renvoie à ce que je disais de l'éthique il y a un instant, et puis la connaissance prophétique, qui serait donc une connaissance certaine. C'est la spécificité de Spinoza, parce qu'il dit que c'est une connaissance certaine. Il ne dit pas que c'est autre chose qu'une connaissance, c'est une connaissance certaine.
Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose de fort.
Absolument.
Il donne un statut important.
Il donne un statut extrêmement fort à la révélation, puisqu'il dit que c'est une connaissance certaine. Or, Spinoza, c'est un homme de la connaissance, donc pour lui, ça veut dire quelque chose d'éminemment positif, apparemment. Donc, connaissance certaine d'une chose révélée par Dieu. Donc moi j'entends distinction entre la connaissance certaine d'une chose qu'on pense par son propre entendement, ça c'est la connaissance naturelle, et puis il y aurait aussi une connaissance certaine de choses révélées aux hommes par Dieu. Ce serait la connaissance prophétique.
Et comment ça s'articule ?
Alors, au début, j'ai le sentiment qu'il distingue, et puis finalement, très vite, dans le traité théologico-politique, Spinoza affirme que la connaissance naturelle est intégralement prophétique. Alors, il semblait les distinguer, et finalement, il les relie. Alors, pourquoi ? Comment ? C'est assez simple. C'est qu'au bout du compte, dit Spinoza, l'entendement, c'est une faculté qui est donnée aux hommes par Dieu. Donc, finalement, même cette connaissance naturelle, elle est prophétique au sens où, ultimement, l'instrument même de cette connaissance, l'entendement, vient de Dieu.
À la racine, en quelque sorte. Voilà. On est tous des prophètes pour lui.
Alors, on est tous des prophètes d'une certaine manière. C'est-à-dire, alors, la difficulté, c'est que Chez Spinoza, il y a une distinction très forte, elle prend plusieurs aspects, mais une distinction très forte entre le prophète et le philosophe. Donc, on est tous des philosophes, on pourrait dire Spinoza, enfin, potentiellement.
On peut tous l'être, d'accord.
On peut tous l'être. En revanche, la prophétie ne concerne pas tout le monde. Alors là, on entre dans les distinctions fortes chez Spinoza, c'est-à-dire que pour lui, la connaissance naturelle, la connaissance par l'entendement, donc la philosophie, c'est quelque chose d'universel. Alors que la connaissance prophétique, ça n'est pas universel. Hein, c'est une connaissance qui a été donnée aux Juifs, précisément, et pas nécessairement aux autres nations, disons, aux autres peuples. Donc il y a ici une différence. Alors la différence s'explique de la façon suivante, dans les termes de Spinoza, c'est que, donc, pour la connaissance naturelle, il suffit d'un entendement bien fait, que potentiellement tout homme trouve en lui. Bon, maintenant, il faut évidemment l'exercice, la rigueur du développement, de la construction, travailler sans cesse, bien entendu. Et puis, la connaissance prophétique, elle repose sur autre chose que l'entendement. Elle repose sur la faculté que Spinoza appelle l'imagination.
Et tout le monde en a aussi.
Ah, tout le monde en a aussi. Mais maintenant, l'imagination met en jeu, disons, les caractéristiques affectives des sujets. Et il se trouve que la connaissance par imagination, donc dont la connaissance prophétique est un cas, un exemple, cette connaissance, c'est la connaissance du vulgaire, disons, celui que Spinoza appelle le vulgaire. C'est-à-dire l'homme qui, justement, n'a pas fait ce travail de développer son entendement.
Donc, en fait, on pourrait dire que le prophète, c'est un vulgaire ? Enfin, c'est un philosophe raté ?
Alors, c'est toute la question. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le prophète s'adresse au vulgaire. Et il y a tout un travail dans le traité théologico-politique sur cette notion que j'essaye de faire dans le livre. Puisque, si vous voulez, d'un point de vue philosophique, on pourrait se dire le vulgaire, bon, c'est monsieur tout le monde, en tant qu'il n'a pas développé son entendement. Ce serait ce qu'on appelle, dans la philosophie grecque, chez Platon, la doxa, c'est-à-dire l'opinion au sens de ce que l'on tient pour vrai sans jamais avoir réfléchi aux raisons pour lesquelles ce serait vrai. Donc, j'entends d'abord le vulgaire comme ça, c'est-à-dire il y a le philosophe d'un côté qui pense, et puis il y a le vulgaire de l'autre, et puis entre les deux, ça ne fonctionne pas toujours très bien, la preuve par la mise à mort de Socrate à Athènes, à son époque. Alors, au début, je me dis, Spinoza parle de la même chose, parce que dans certaines lettres, il semble parler de la même chose, il dit, voilà, le vulgaire est incapable de la moindre connaissance par entendement. Et puis, il se trouve que dans le traité théologico-politique, il y a une figure du vulgaire qui se dessine de plus en plus, et cette figure du vulgaire, ce sont les Hébreux. Voilà, c'est ce que dit Spinoza, les Hébreux. Parce que les Hébreux, lorsqu'ils ont reçu la révélation, étaient, dit-il, comme des enfants incapables du moindre exercice.
Il y avait une pure passivité, vous voulez dire.
Il y avait une pure passivité, et il y avait une incapacité à recevoir la vérité comme telle. Et c'est là qu'il y a un côté très chrétien, si l'on peut dire, de Spinoza, enfin, en tout cas la pensée de Spinoza, ce qui fait que, parce que vous avez parlé tout à l'heure dans l'introduction, dans le lancement, des images qu'on a de Spinoza comme héros de la lutte contre l'obscurantisme, etc. Il y a aussi d'autres images en regard qu'on trouve chez un certain nombre de philosophes juifs, précisément comme Hermann Cohen, Rosenzweig, Jacob Gordin ou Lévinas, selon lesquels il y aurait une trahison de Spinoza. Donc, si vous voulez, c'est la difficulté quand on travaille sur Spinoza, c'est qu'il est présenté soit comme un héros, soit comme un traître.
Mais justement, sur le côté, sur la trahison, si on peut dire, il y a ce côté aussi, pour le dire vulgairement, il joue Jésus contre Moïse.
Ouais. Il joue Jésus contre Moïse pour la raison...
Ça rappelle un peu Saint Paul, finalement.
Oui, il est très proche de Saint Paul. De toute façon, il cite assez souvent, dans des passages stratégiques, disons, de son texte, il cite les épîtres de Paul. Maintenant, il joue Jésus contre Moïse de la façon suivante. Je vais essayer de le résumer rapidement. En gros, on a dit que les Hébreux étaient une part de ce qu'il appelle le vulgaire, c'est-à-dire des enfants. Maintenant, il s'agissait du peuple, il ne s'agissait pas des prophètes. Donc, que fait-il des prophètes ? Puisqu'il nous a dit quand même que la prophétie, c'était une connaissance certaine. Donc, on a l'impression que là, on n'est pas dans l'ignorance vulgaire. Donc, Moïse, il prend la figure de Moïse. Qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que Moïse, finalement, ce sont ses propres termes, n'a jamais rien connu de Dieu. Il n'a jamais rien connu de Dieu parce qu'il demande à Dieu de lui montrer sa face et que, évidemment, cela sous-entend, selon Spinoza, que Moïse croyait que Dieu était matériel, enfin qu'il avait un corps, voilà.
Donc, d'où sans image.
Voilà.
Mais Spinoza aurait pu dire, par exemple, Maïmonide, dans le Guide des égarés, il y a quand même un travail dans la première partie sur le fait de montrer la main de Dieu, mais même la parole de Dieu, que c'est quelque chose de plus rationnel, on va dire, de plus intellectuel, et donc il n'y a pas ce rapport à l'image et à l'imagination.
Alors précisément, Maïmonide, comme vous savez, c'est une des images, un des penseurs contre lequel Spinoza se bat, en vérité, dans son livre. Il y a des charges extrêmement violentes contre Maïmonide, qui selon lui fait délirer les textes, tout simplement, fait délirer les textes, donc, c'est-à-dire qu'il introduit la philosophie dans la Torah, et que ce faisant, il produit quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'écriture, et qui relève, pour Spinoza, du délire. Alors,
donc en fait, ce qu'il dirait dedans, c'est que Maïmonide a essayé d'arracher le sens du texte, le sens des écritures, et qu'il se serait trompé. Il y a une opposition de philosophe, on pourrait dire.
Je pense qu'il y a une opposition de philosophe. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire Spinoza, ils sont très proches sur certains points. Très, très proches sur certains points. Notamment sur la question du vulgaire. Enfin, on trouve chez Maïmonide des tirades extrêmement violentes contre le vulgaire et contre son besoin de croire et contre le fait qu'il y a tout un tas de choses dans la Torah qui sont finalement des propédeutiques pour un ignorant qui, bon, finalement, n'a pas les moyens par lui-même d'accéder à la vérité. Donc, ça c'est assez commun à Spinoza et à Maïmonide. Je pense qu'il y a au fond un geste commun et une certaine admiration certainement de Spinoza pour Maïmonide. Maintenant, comme toujours, comme il y a une proximité, on cherche aussi à marquer sa différence. Alors là, ça prend un tour très violent. Ça prend un tour très violent dans la pensée de Spinoza parce que il cherche à montrer qu'effectivement, on pourra le dire très vite, mais qu'effectivement Maïmonide a essayé d'introduire de force la pensée d'Aristote dans la Torah. Quoi. Voilà, c'est ça le reproche.
Il y a un enjeu derrière aussi, donc, c'est la distinction, on l'a dit déjà, entre le prophète et le philosophe, mais il semblerait que déjà dans le Talmud, il y avait déjà quelque chose de similaire avec la fameuse phrase « Chacham adif minavi », c'est-à-dire un sage est préférable au prophète, et peut-être même pour les mêmes raisons que Spinoza, puisque le sage est dépositaire de son propre savoir, qu'il a fait le chemin justement avec sa connaissance. Comment est-ce qu'on peut... Déjà, comment est-ce que Spinoza a pu ignorer ça ?
Non, alors, Spinoza ne l'ignore pas parce que je pense que toute sa construction, toute son opposition entre philosophe et prophète, c'est un commentaire de cet adage talmudique que vous avez cité donc dans Baba Batra, où on dit « le sage est plus que le prophète ». Alors, le sage est plus que le prophète, Spinoza l'entend au sens suivant, le philosophe est plus que le prophète. Pourquoi ? Parce que le philosophe et l'homme de l'entendement, c'est-à-dire qu'au fond, il n'est pas un intermédiaire entre la pensée et celui qui la reçoit, ou il est un intermédiaire, mais disons qui s'autodétruit. C'est-à-dire que lorsque le philosophe enseigne quelque chose, celui à qui il enseigne devient lui-même philosophe, et donc n'a plus besoin de la médiation de ce philosophe. Alors que dans la prophétie, la médiation est toujours présente. C'est-à-dire que Moïse n'enseigne rien, dit Spinoza. Il n'enseigne rien, rigoureusement rien. Et il est comme un père, et la phrase vaut l'attention qu'on peut lui prêter, il est comme un père. Or, un père ne veut rien enseigner à son enfant, il veut simplement qu'il lui obéisse. Spinoza.
D'accord.
Oui. Donc il s'agit pour Moïse de faire obéir ce peuple un peu revêche, à la nuque froide, comme on dit. C'est tout. Il ne s'agit pas d'enseigner. Donc vous avez une figure d'un intermédiaire qui cherche l'obéissance. Ça, c'est le prophète. Et vous avez la figure de celui qui cherche à propager la connaissance, c'est le philosophe. Le philosophe, en tant que tel, il finit par s'évanouir parce qu'au bout du compte, celui qui l'écoute se retrouve face à son propre entendement, pensant les choses telles qu'elles sont, les idées. Alors que dans la prophétie, il n'y a pas ce mouvement et le prophète restera toujours comme intermédiaire. Ça a d'ailleurs une traduction politique dans la suite du traité théologico-politique.
D'une certaine manière, ce qu'on pourrait dire, c'est que la névoa, ça fait des enfants et la chorma, ça fait des hommes.
On pourrait dire ça si on entend par enfant, effectivement, cet être incapable de comprendre quoi que ce soit autrement que par l'imagination et qui doit donc obéir en attendant d'être un jour capable d'entendement.
Bon, alors on voit que d'une certaine manière... Au terme de cet échange-là, Spinoza apparaît comme un talmudiste un petit peu hétérodoxe, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a cette volonté, en tout cas, de travailler le texte, quitte peut-être à parfois à vouloir s'en échapper. Il y avait une chose, vous avez une actualité assez chargée, puisque vous avez travaillé à l'édition d'un cours de Benny Lévy, sur le Phédon, un dialogue de Platon. Et le sous-titre, c'est « Philosopher en présence de la mort ». Alors, je ne l'ai pas dit dans le lancement, mais vous êtes, on pourrait dire, pour simplifier, l'un des élèves, vous avez été l'un des élèves les plus fidèles du regretté Benny Lévy. Et avant même de, enfin, tout en le présentant, est-ce que vous pouvez dire la spécificité de ses cours ?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai été effectivement pendant assez longtemps l'élève de Benny Lévy. J'ai fait un certain nombre de diplômes avec lui il y a longtemps.
Et, lorsqu'il était professeur à l'université.
Lorsqu'il était professeur à l'université de Paris 7 à l'époque, oui. Et moi, j'étais étudiant. Alors, le cours sur le Phédon, c'est le quatrième cours qu'on publie de Benny Lévy. Ça m'importe par rapport à votre question. C'est-à-dire que, bon, Benny Lévy a écrit un certain nombre de livres, peu en réalité, 5-6, de son vivant. Il a enseigné toute sa vie. C'était un enseignant absolument hors pair, véritablement. C'était quelqu'un qui alliait, si vous voulez, une sorte d'oralité active et extrêmement prenante pour ses auditeurs, et puis une attention extrême au texte, et qui savait faire les deux en même temps. Donc c'était tout à fait, roboratif pour ses étudiants, tout à fait intéressant. Et il avait une manière de vous faire entrer dans les textes de telle sorte qu'en gros, on est obligé d'utiliser un peu des formules pour résumer les choses, bien entendu, mais qu'en gros, vous ayez l'impression que ces textes n'avaient été écrits que pour vous et que c'est à vous qui posez des questions. Voilà, c'est mon premier contact avec le cours de Benny Lévy. Je suis reparti de 6 mois, enfin quelques mois de cours, un semestre universitaire, et j'ai passé mon été entier à essayer de répondre aux questions que me posait le Protagoras de Platon, expliqué par Benny Lévy. Donc, ce qui est très peu connu de Benny Lévy, c'est cet aspect-là en vérité, sauf par ceux qui ont été ses élèves, mais si on prend ses livres, les livres de Benny Lévy sont extrêmement durs, parce qu'extrêmement concentrés. Il faisait vraiment, pour ses livres, un travail de concentration de sa pensée, puisque son idée, c'était que la pensée est développée, mais précisément, ce n'est pas dans le livre qu'elle se joue, c'est dans l'étude du livre, et donc, c'est très difficile d'accès. Par ailleurs, il y a toute la réputation. Là, c'est un peu comme pour Spinoza. On est pris d'abord par des images quand on aborde Benny Lévy, oui, comme pour Spinoza. Et les images, bon, vous
avant
savez...
Avant d'avoir la parole, justement.
Voilà, avant d'avoir la parole, les images, c'est ce chef de la gauche prolétarienne, donc maoïste, qui devient juif orthodoxe, homme en noir, et puis qui fait un livre assez brutal, juste qui est apparu au moment de sa mort, hein, très brutal elle aussi, qui est être juif. Donc, moi, ce qui m'importe depuis son décès, mais ce qui m'importe absolument parlant, c'est qu'on ait aussi accès à la parole vive de Benny Lévy, et la parole vive de Benny Lévy, pour moi, c'était son enseignement. Donc je suis très attentif à cela, et je suis très content du coup qu'on ait réussi à publier ce cours, puisqu'on a récupéré un certain nombre d'enregistrements, en fait, des cours. Il y avait des étudiants qui venaient avec leur magnétophone à l'époque, et qui enregistraient les choses sur des cassettes magnétiques, et voilà, donc on a... Alors voilà, ce qu'on voit, je crois, ce qu'on voit, j'espère, dans le livre, c'est cette pratique de la pensée qui, justement... Alors, se situe à un très haut niveau de lecture du Phédon. C'est un dialogue de Platon très difficile, le Phédon. Ça raconte la mort de Socrate. Hein, il va être exécuté le soir même, et donc c'est la dernière journée. Il est dans sa cellule avec ses amis. Et il parle évidemment de la mort et de ce qui va se passer après, puisque ses amis sont désespérés de voir partir leur maître.
Ils vont devoir philosopher après sa mort.
Voilà, ils vont devoir philosopher après sa mort. Donc c'est un dialogue très métaphysique, il y a tout un tas de ce qu'on appelle en philosophie des preuves de l'immortalité de l'âme. Enfin bon. Et Benny Lévy prend ce texte, qui est très difficile en vérité, et le commente avec des gens, ou devant des gens, devant des étudiants qui ne sont pas des philosophes, c'était une fac
de lettres,
voilà, une option de philosophie. Et il situe donc la lecture à un niveau extrêmement élevé, tout en étant absolument attentif aux questions naïves que posent les interlocuteurs. Alors, oui, on essaie de rendre compte de cela.
C'est ça, c'est très surprenant. Ouais. Il y a souvent donc intervenant marqué, intervenant 2, etc. Mmh. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des questions assez... oui, vous l'avez dit, voilà, assez naïve, et il y a une réponse très sérieuse, une prise au sérieux de la question. Mais
ça, c'est vraiment...
C'est presque socratique, en fait.
C'est socratique. C'est vraiment ce dont je voudrais que ces livres témoignent, par-delà leur intérêt propre, enfin, je veux dire, de lecture des dialogues de Platon. C'est-à-dire qu'il y a cette attention chez Benny Lévy à ne ça va à l'encontre de l'image qu'on avait de lui, en vérité, à ne prendre personne pour un imbécile. C'est-à-dire, ou à penser, mieux encore, qu'un imbécile... entre guillemets, bien entendu, qu'un imbécile, ça dit quelque chose et ça demande quelque chose. D'où le décalage. Voilà, qu'il n'y a pas de vulgaire, en vérité. Et d'où le décalage qu'il y a parfois entre des questions qui ont l'air totalement, mais vraiment, d'une naïveté assommante, et puis la réponse que Benny Lévy fait, où on a le sentiment qu'il va chercher dans une question naïve quelque chose de profondément sérieux, de profondément intéressant, et qu'il va développer en présence des étudiants. Alors, je ne sais pas si l'étudiant se reconnaît toujours dans la réponse qu'on apporte à sa question, mais ça, ce n'est pas grave. Pour moi, c'est le rôle de l'enseignant, c'est ça, c'est de semer des choses qui mettront 25 ans à se développer, ça n'a aucune importance.
Mais il y a une chose, alors, c'est une question un peu plus personnelle. Mm-hmm. Donc, vous éditez ce cours sur le Phédon, et Phédon, c'est la mort de Socrate. Phédon est écrit par Platon, qui est l'élève de Socrate, et vous, évidemment, l'analogie n'est pas si évidente que ça, mais on peut retrouver quelque chose. Vous éditez le cours de votre maître mort.
Oui.
Donc, comment est-ce que ça joue pour vous, ça ?
Alors, j'entends l'analogie, mais non, elle a vraiment des limites, effectivement. Donc, j'essaie de dire les limites, ça dira quelque chose, de ce que vous demandez. C'est-à-dire que, Socrate meurt, il n'a jamais rien écrit, il n'a fait que parler, et Platon va s'occuper toute sa vie durant de restituer d'une certaine manière la parole de son maître. Maintenant, on n'a aucune certitude quant à ce qu'a dit le Socrate historique. Bon, donc il y a un effet de reconstruction immense, et puis il y a une immense écriture de Platon. Platon est un écrivain extraordinaire. Une mise en scène, un style littéraire pour les spécialistes de grec ancien, assez, des pastiches, enfin tout, c'est vraiment un écrivain au sens propre. Alors évidemment, là, l'analogie ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, c'est que effectivement, j'espère par là, mais enfin, je ne suis pas tout seul à préparer ces textes, j'espère par là porter d'une certaine manière la parole vive de Béni Lévi. Donc en cela, il y a une ressemblance évidente, par-delà sa mort, bien sûr. Maintenant, la différence flagrante, c'est que je n'écris pas ce qu'a dit Béni Lévi. Évidemment, on toilette des enregistrements, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça bafouille, il y a des moments où c'est inaudible, malheureusement, les questions des parce que tout le monde n'avait pas de micro. Donc on a balayé le texte, on l'a nettoyé un petit peu, tout en essayant de garder le côté oral des échanges. C'est assez difficile, mais enfin, j'espère que ça fonctionne dans le livre tel qu'il est publié.
En tout cas, il est vraiment très agréable à lire et on trouve le texte de Platon devient très simple, on va dire, enfin accessible et extrêmement vivant. Eh bien, Gilianus, merci beaucoup. Donc, je rappelle, Sans images ni paroles, Spinoza face à la révélation aux éditions Verdier. Le Phédon, philosopher en présence de la mort, les cours de Béni Lévi, toujours aux éditions Verdier. Gilianus est également le directeur des cahiers d'études lévinassiennes, et la prochaine livraison des cahiers aura lieu en décembre, et le thème sera
le travail.
Eh bien, merci beaucoup, Gilianus, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.